Marie Romanas, je suis contente de vous recevoir à nouveau aujourd'hui. La semaine dernière, vous avez défendu l'idée que la psychanalyse pouvait aider à libérer la spiritualité contre les caricatures de la religion. Mais l'originalité de votre livre, Le Divan et le Prix Dieu, édité chez Desclée de Brouwer, c'est aussi d'inviter à psychanalyser le rapport des psychanalystes à l'institution psychanalytique. Quoi donc, les écoles de psychanalyse sont-elles comparables à des églises? Voilà un propos assez provocant.
Je ne suis pas la seule à le tenir. On est plusieurs, effectivement, à s'être fait cette réflexion-là. On parlait la dernière fois de la dérive possible des institutions vers le dogmatisme, l'enfermement, la croyance en des vérités immuables. La psychanalyse en tant qu'institution, pas en tant que processus, mais la psychanalyse en tant qu'institution n'échappe pas à cette dérive possible. Donc il peut se faire qu'à certains moments, des écoles s'enferment sur elles-mêmes et prônent une pensée, et c'est celle-là qui est bonne, et on n'a pas le droit de penser autrement. Là, je caricature le trait pour faire comprendre, mais il y a des tendances comme ça qui ont existé et qui existent encore, à certains moments dans les écoles de psychanalyse.
Et ça a comme conséquence que les écoles se multiplient, chacun ne se sentant exclu.
Ça peut en participer. Je ne dis pas que ça soit le seul facteur à la multiplication des écoles, mais c'est vrai que quand il y a trop de rigidification, à ce moment-là, souvent se créent des ruptures, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent autrement, donc ça va faire des guerres, ils vont être exclus ou s'exclure eux-mêmes, et ils vont fonder une autre école qui peut reprendre les mêmes dérives.
Oui, oui. Et quelles sont les écoles de la psychanalyse qui existent en qui existent aujourd'hui et qui sont vivantes ou au contraire sclérosées?
Oui, c'est pas si caricatural que ça. Oui, parlons plutôt de tendance.
Oui.
Dans les différentes écoles, bien sûr, il y a l'école freudienne, et puis il y a plusieurs écoles lacaniennes aussi, et il y a les écoles jungiennes, ça c'est les trois grands ensembles.
Les grands ensembles, oui. Quels sont les aspects du psychisme des psychanalystes qui se trouvent en quelque sorte enfermés dans ces écoles psychanalytiques? Comment est-ce que sur le plan psychique, ils se trouvent arrêtés dans leur identité?
Oui. Ça se comprend dans le fait que le psychanalyste, quand il s'installe comme psychanalyste, après avoir fait toute une tranche de travail sur lui-même, travail intérieur sur lui-même, n'a pas été au bout, on ne va jamais au bout d'ailleurs, mais est-ce qu'il a visité suffisamment des conflits ou des nœuds intérieurs très forts? Pas toujours, parce que des fois c'est vraiment un rude chemin. Donc il a peut-être encore à explorer des choses. Et le fait de se retrouver en position d'analyste est une position qui est stressante, c'est une position où il a une responsabilité et où se trouve confronté des fois avec des choses difficiles qui se passent avec son patient. Et à ce moment-là, s'il est trop dans l'insécurité, comme tout un chacun, on a tendance à ce moment-là à se raccrocher à des choses, à des vérités qui nous servent un peu de béquille ou de colonne vertébrale. Il peut se raccrocher à ce moment-là aux théories des maîtres et à la structure de son école. Et à ce moment-là, moins penser par lui-même, mais penser plus à travers l'école.
C'est vrai que certaines fois, on a cette représentation du psychanalyste de quelqu'un qui aurait une vérité sur l'autre et qui serait en quelque sorte au-dessus de l'autre pour pouvoir dire la vérité de l'être, et c'est un fantasme qui fait peur chez celui qui...
Il y a aussi la projection qu'on peut faire sur l'analyste, de le voir comme ça aussi, et puis ça bouge beaucoup chez les analystes, hein, et il y a de plus en plus de remises en question, cette remise en question dont vous parliez tout à l'heure, sur la psychanalyse elle-même, sur l'institution psychanalytique, donc les choses ne sont pas aussi raides que ça.
Oui, c'est cela. D'ailleurs, Freud déjà a montré le chemin, je crois, par rapport à la thérapie de l'époque. Il a donné sa parole. Il a donné la parole en quelque sorte aux patients.
Exactement.
Hein, et au sens fort du terme, puisque la cure psychanalytique, c'est une cure par la parole, d'abord.
Oui, c'est ça. C'est une cure par l'écoute.
Par l'écoute.
Par la parole et par l'écoute.
Oui.
Et effectivement, il a ouvert le chemin de l'écoute.
Oui. Donc la difficulté, c'est de rester dans cette écoute quand on est encore soi-même insécurisé et on est toujours quelque part.
Et toujours on a tendance à se raccrocher plus ou moins.
C'est pas très facile pour le psychanalyste. Cette pratique, finalement.
Ah non, c'est pas une pratique facile.
Oui. Et cette position que vous avez de de dire on peut psychanalyser l'institution psychanalytique. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien reçu par vos collègues aujourd'hui ou...
Je le pense dans l'ensemble parce que je ne suis pas la seule à le dire. D'autres l'ont dit même avant moi. Et je crois qu'on est de plus en plus à se poser ces questions-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de rigidification, ça, bon.
Oui, ce serait
trop beau.
Ce serait trop beau, voilà. Donc le mouvement d'ouverture,
trop idéal.
Le mouvement d'ouverture est en route.
Oui.
Suivons le dialogue avec Marie Romanas. Alors, l'histoire de la psychanalyse, elle est riche de grandes personnalités, mais c'est Freud qui en est le grand inventeur. Que découvre-t-il finalement ?
L'importance de l'inconscient,
oui.
Qu'on n'avait pas mesuré. Parce que l'inconscient savait déjà que ça existait, mais on n'avait pas mesuré à quel point il jouait. Et que le conscient n'était pas maître. Que plein de choses échappaient et dont on n'avait pas idée, justement. Et c'est ça, sa grande
découverte,
j'allais dire sa grande lumière, d'avoir mis justement la lumière là-dessus, qu'il y avait énormément de choses qui nous échappaient.
Mais alors, ça veut dire que notre liberté, elle est inexistante ?
Pas inexistante, mais peut-être pas aussi grande que nous le croyons.
Oui. Et comment alors peut-on essayer de ne pas se laisser prendre au piège de tout ce qui est inconscient ? La parole, cela aide ?
La parole et l'écoute, toujours pareil. Hein,
oui.
Parce que la parole ne fonctionne pas sans l'écoute, et l'écoute a besoin d'une parole, évidemment, pour se faire écoute. Oui, la parole, parce que c'est en laissant parler en soi et en parlant à un autre qu'à ce moment-là, des choses peuvent émerger dont on n'a pas idée.
Et du coup, en s'entendant les dire, on les reconnaît comme existantes.
Voilà, parce que quelqu'un les écoute à ce moment-là, elles sont reconnues comme existantes parce qu'on s'écoute soi-même. J'aime beaucoup le mot de Françoise Dolto, je prête mes oreilles pour que le patient s'entende. Exactement, c'est ça. Pour s'entendre soi-même dans des zones dont on n'a pas idée. Voilà. Et on a besoin de l'autre.
On a besoin de l'autre, oui. Donc en fait, c'est ce travail d'attention à soi-même.
Voilà, à l'intériorité.
À l'intériorité. Et c'est vrai que quelquefois, pour des, entre guillemets, bonnes raisons morales, on ne prend pas le temps de s'écouter et on a peut-être tort.
Oui, je connais des excès comme ça, dans une extériorisation, on fait des œuvres, on réalise des choses, on est beaucoup à l'extérieur de soi et on ne prend pas le temps d'écouter ce qui se passe, qui n'est pas anodin.
Et oui.
Et c'est toujours la grande découverte quand on se met à écouter des gens ou quand des gens se mettent à écouter. Oh, ben j'aurais jamais imaginé que ça existait en moi.
Et ce qui est curieux, c'est que le fait d'avoir dit et que c'était entendu par quelqu'un d'autre, ça crée une espèce de libération.
Oui,
ça doit pour vous être assez étrange de voir, vous devez avoir
merveilleux
souvent,
en même temps.
Merveilleux.
Merveilleux en même temps quand ça se produit.
Oui, cette mise à l'extérieur de soi permet en quelque sorte de se libérer.
Une prise de conscience, une écoute, et à ce moment-là, un changement dans la structure du rapport, dans le rapport surtout, entre le conscient et l'inconscient qui fait que la personne devient autre, change.
Oui,
et va plus dans le sens d'elle-même.
Voilà. Elle est moins prisonnière de ses...
Donc on retrouve la liberté
dont
on parlait tout à l'heure.
Et on se libère par la parole.
Voilà.
Donc il faut se parler, pas pour ne rien dire, mais
pour se parler en vérité, entre guillemets.
Et avoir le courage de parler, de se dire les choses. Pas simplement avoir, comment dire, le respect d'écouter, mais avoir le courage de parler. On ne dit pas souvent, toujours assez ça, le courage de se dire.
Oui,
c'est
exactement.
Important.
Et l'humilité, parce qu'il faut beaucoup d'humilité.
Parce que je pense
beaucoup de courage et beaucoup d'humilité.
Ceux qui viennent vous voir, ils ont du courage.
Oui, absolument. Pour
oser, oui. Alors, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans votre livre, là, Le Divan et le Prie-Dieu, c'est l'interprétation psychanalytique que vous faites de l'histoire de la psychanalyse. Vous parlez de Freud en faisant la critique, d'une certaine façon, en disant il y a une limite chez Freud, il y a de l'impensé, d'accord, il a lancé quelque chose d'extraordinaire, mais il y a de l'impensé, vous dites, familial, de l'impensé religieux. Qu'est-ce que...
Là, je me suis servi beaucoup d'ouvrages qui ont déjà été écrits sur la vie de Freud, sur ses rapports avec la judaïcité, Et effectivement, on a repéré qu'il y avait des points limites. Bon, il ne pouvait pas tout déblayer. C'était déjà tellement énorme le travail de pionnier qu'il faisait. Mais c'est vrai que dans son histoire familiale, il y a des choses qu'il n'a pas soulevées, semble-t-il. Et aussi, on peut se poser la question de quel est son rapport avec la religion juive, qui semble aussi avoir été mis à l'écart. Alors là-dessus, il y a des ouvrages, bon, je ne vais pas les dire ici, mais on peut les retrouver, les références dans mon livre, qui sont très intéressants là-dessus. Et qui, à partir de là, montre les limites possibles dans la pensée freudienne, ce qui n'enlève rien
à la valeur
de sa découverte. Oui. Mais en même temps, maintenant, on peut peut-être aller au-delà.
Et ça relativise, on a peut-être fait un peu trop de Freud une espèce d'idole, à certains moments, non ?
Il y a eu des tendances.
De retrouver sa liberté aussi.
À la fois en reconnaissant l'héritage qu'on a grâce à lui, et puis en même temps que c'est à nous de reprendre le flambeau.
Voilà, et de ne pas se finalement déifier, déifier un être qui est aussi génial soit-il, qui n'est qu'humain, qui est humain comme nous. Alors bon, c'est donc la première grande personnalité. Les autres grandes personnalités de la psychanalyse, je crois qu'il y en a une qui vous tient plus à cœur, Jung.
Oui, puisque j'ai commencé mon chemin par la psychanalyse jungienne. Oui. Et c'est vrai que pour moi, ce qui était important, c'est qu'il y avait une ouverture chez Jung sur le plan de la spiritualité, parce que pour lui, dans la psychanalyse, il y a une fonction spirituelle, une fonction religieuse. Donc pour moi, ça c'était très important de suivre une psychanalyse jungienne.
Parce que pour Freud, ça n'était pas le cas.
Non, pour Freud, ce n'était pas le cas.
Et cette psychanalyse avec Jung, elle vous a apporté d'autres choses importantes ? Quelle originalité de cette démarche ?
Le rapport au rêve.
Ah.
Parce que j'ai compris à travers cette psychanalyse et l'écoute des rêves, les miens, ceux des patients, qu'il y avait un aspect prospectif au rêve qui n'est pas nommé dans la psychanalyse freudienne. C'est-à-dire qu'il semblerait, je ne saurais peut-être pas bien l'exprimer, mais il semblerait qu'il y ait une dynamique qui est déjà prospective dans le rêve, qui annonce déjà quelque chose qui est en travail, une dynamique pour le futur, de choses qui sont en train de se constituer, qui vont apparaître dans le futur. Et ça, c'est vraiment un apport de Jung, que l'on ne trouve pas chez Freud. Cela dit, je ne veux pas me présenter Jung comme meilleur que Freud, parce qu'on rentrerait encore dans une histoire que je veux absolument éviter, parce que Jung, je pense que c'est le gros dommage des ruptures. Il y a eu cette rupture entre Freud et Jung. Il y a eu des éléments freudiens qui ont été perdus. Ah, et là aussi, ce serait très intéressant que les écoles arrivent à mieux se parler.
Et s'articuler en quelque sorte leur découverte, d'une certaine façon.
Voilà.
Alors, pour Freud, le rêve, il est davantage tourné vers le passé.
La réalisation inconsciente des désirs. Donc plus passé, présent, je dirais.
Oui.
Et dans Jung, il y a cette dimension prospective. Oui. Donc d'annoncer en quelque sorte ce qui va arriver, parce que ça nous montre déjà la dynamique à l'œuvre au plus profond.
Donc c'est quand même à ce moment-là une représentation du psychisme qui est quand même assez différente.
Voilà,
je rejoins ça à ce que vous disiez juste avant, s'il y a une référence à la transcendance chez Jung, la dimension spirituelle est davantage prise en compte que chez Freud.
Dans le sens de ce que Jung a appelé le soi, c'est que l'être serait appelé à une individuation et à se réaliser dans le sens d'une approche de ce qu'on pourrait appeler la totalité ou l'unicité. Je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais quelque chose qui est...
Un accomplissement.
Oui, un accomplissement, mais dans quelque chose qui est une ouverture vraiment à l'autre, à l'intérieur de soi, à l'autre, à l'extérieur, dans une rencontre avec... Oui, une union dans quelque chose d'assez total.
Oui, donc l'autre au sens, c'est un autre mot de Dieu peut-être, ou de la totalité du monde. Il ne s'explique peut-être pas beaucoup là-dessus.
Si, il y a des endroits où il parle de Dieu, mais comme un archétype. Donc là, ce serait à approfondir. Mais c'est vrai qu'il y a cette direction de l'homme qui s'accomplit pour un plus. Un plus avec un grand P, je ne sais pas comment le nommer.
C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que en France, qu'on ait beaucoup entendu parler des psychanalyses de Jung. On entendait plus parler de Freud. Je me trompe, ou bien c'est
ça
une impression?
Ça n'est pas en faisant Michel Cazenave a fait un énorme travail de diffusion des idées de Jung.
Oui, c'est exact. Charles Baudouin aussi.
Ah oui, moi je fais partie de l'Institut Charles Baudouin, effectivement,
Qui est toujours en activité, donc cet institut.
Oui.
Oui, et qui est un lieu d'échange de vos travaux, comme comment se fonctionne
cet institut qui s'est constitué autour de la personnalité de Charles Baudouin a l'avantage de réunir des gens qui peuvent être d'obédience freudienne ou d'obédience jungienne et qu'on peut parler dans les différents langages. Et c'est pour ça que moi je me trouve dans cet institut-là, parce que c'est très important pour moi.
De pouvoir
voilà. Et Charles Baudouin était un philosophe, je crois que c'est pas pour rien que du coup ça s'est créé comme ça, cet institut autour de lui. Il avait fait une tranche d'analyse freudienne, une tranche d'analyse jungienne. Il a dit je choisis la psychanalyse, je choisis pas Freud, Jung. C'est comme si on me demandait de choisir Newton ou Einstein, je choisis la physique.
Marie Romanas, la diversité des interprétations psychanalytiques, Freud, Jung, d'autres encore, est-ce que ce n'est pas une disqualification de la psychanalyse ? On attendrait un discours unique, unifié ?
Est-ce que vous attendez un discours unique des scientifiques ?
Mais on aimerait bien, on est toujours choqués.
Vous ne l'avez pas.
Où est la vérité alors ?
Oui, bon, petit à petit, elle peut arriver à se faire. On voit bien les scientifiques qui, des fois, ont des théories différentes, puis ils arrivent à se mettre d'accord parce qu'il y a une trouvaille qui est arrivée et qui a tranché.
Il y a des accords comme ça. Il y a des accords
qui peuvent arriver, mais au bout de combien de temps de travail, de recherche, etc. Je crois qu'en psychanalyse, on peut faire un parallèle. Il y a des recherches par des bords différents. Oui, pardon, des points de départ différents, des pensées différentes, des façons, oui, d'aborder les choses très différentes et qui font que on crée des théories différentes. À la limite, on pourrait chaque psychanalyste pourrait créer sa théorie.
Oui, donc
mais
c'est
enfin, on arrive
ça
quand
qui
même,
stabilise.
Mais on arrive quand même à avoir des accords. Certains des accords fondamentaux, même entre des écoles très différentes, comme l'école jungienne et l'école freudienne. Certains accords fondamentaux.
Oui.
Complexe d'Oedipe, c'est fondamental.
Ça, c'est un accord.
Ah, mais oui, c'est un accord fondamental.
Bon,
ce que je disais la dernière fois, les castrations symboliques, c'est un accord fondamental. Il y a des grandes bases comme ça, des grandes pierres qui sont posées.
L'importance de la sexualité aussi, c'est quelque chose de fondamental.
Oui, alors,
ce langage,
qui est vécu différemment, qui est abordé différemment, mais oui. Ça aussi.
Oui.
Donc après, c'est à nuancer dans les détails. Mais il y a des grandes pierres comme ça qui sont posées. Et puis après, effectivement, il y a
là,
des différences.
Y a des différences.
Mais il les faut, ces différences. Il les faut pour que justement, pour qu'on puisse aller plus loin. Si on était tous d'accord, on s'arrêterait.
Et elles correspondent, ces différences, aussi à la diversité des publics que vous rencontrez, disons que dans vos analyses, enfin, est-ce que ça, comment dire, suivant le type de symptômes, de maladies pour lesquelles les patients viennent, cela invite à...
Peut-être plutôt suivant les personnalités.
Les personnalités.
On dit pour rire, mais je crois qu'il y a une part de vérité là-dedans, c'est que bien, c'est pas... Le patient qui va voir un psychanalyste jungien, c'est pas pour rien. Le patient qui va voir le psychanalyste freudien, c'est pas pour rien.
C'est ça.
Il a déjà quelque chose.
Un pressentiment.
Oui, ou quelque chose dans sa structure qui correspond.
Oui. Oui, c'est cela.
À ce genre d'écoute. Et il va rêver dans le sens. Il va faire des rêves freudiens ou des rêves jungiens.
Ah bon?
Voilà.
C'est original.
Suivant l'analyste qui va l'écouter.
Et alors, c'est quoi un rêve? Donc, c'est ce que vous expliquiez à propos du rêve tout à l'heure.
Le rêve freudien sera plus, effectivement, dans le sens réalisation des désirs.
Voilà.
Et le rêve jungien, on va retrouver des grands archétypes.
Voilà.
Et puis, cette dimension prospective dont je parlais tout à l'heure.
Donc, il faut dire que, alors que la psychanalyse, ça n'est pas une science au sens
exact,
et ni au sens positiviste du 19e siècle.
Ah non.
Pourtant, Freud, il a eu envie au départ. Dans certains de ses textes, on trouve quand même cette influence de son époque.
C'était un peu obligé, vu le contexte dans lequel il baignait. Et puis aussi, il fallait que sa découverte et pignon, puisse passer, puisse être entendue. Donc... Bon, qu'est-ce qui était en train d'émerger, c'était quand même la science avec ses découvertes faramineuses et comme c'était important et comme il fallait y croire pour se dégager justement de l'obscurantisme.
Oui.
Donc effectivement, la psychanalyse, à ses débuts, on avait un peu tendance à essayer de la ranger du côté scientifique. Bon, alors que...
C'est plutôt donc un discours interprétatif. C'est une interprétation des comportements humains, mais qui n'est pas, qui n'a pas une objectivité, l'objectivité de la physique.
Ah non, hein,
parce
rien
que
à
justement,
voir.
Il ne s'agit
voir.
Pas de ça.
Rien à voir.
L'homme n'est pas une chose.
Non, hein. Simplement, ce qu'on peut juste repérer, c'est que il y a des causes qui reviennent un peu identiques chez les uns et chez les autres. Il y a des grands schémas psychologiques qu'on peut retrouver dans les structures humaines. Voilà, ça, on fait des repérages comme ça, ce que je disais, les grosses pierres qu'on peut
comme
poser
le complexe
comme ça.
Édipe. Redites-nous un petit peu ce que c'est que le complexe Édipe dans les, donc les grands, ces grands traits.
Oui, hein. C'est quand l'enfant arrive dans l'âge de 4-6 ans et qu'il commence à être amoureux du parent de sexe opposé et qu'il
c'est des histoires, ça, c'est les parents qui sont... Non, c'est vrai. Il y a des personnes qui ne veulent pas croire ça.
Oui, pourtant, quand on écoute les enfants, ils le disent encore mieux que dans les livres.
Oui. C'est vrai, ça c'est vrai. Moi, quand j'écoute les jeunes couples qui parlent de leurs petits-enfants, quelquefois, ben maman, papa, il ira n'importe où, mais moi je voudrais coucher avec toi, par exemple. C'est vrai que les petits-enfants disent ça. Alors ils ne mettent peut-être pas le même contenu dans les mots que nous y mettons, nous adultes.
C'est-à-dire
quand le petit garçon dit « moi je veux coucher avec maman », ça ne veut pas dire la même chose peut-être que ce qu'un adulte dirait.
Oui, bien sûr, il y a la différence entre l'adulte et l'enfant, mais n'empêche qu'il a bien envie de garder sa maman pour lui tout seul.
Oui, ça c'est sûr.
Exclure le papa.
Exactement.
Voilà, ça, on est dans le dit.
Y a-t-il d'autres pierres d'attente, enfin, qui sont communes à toutes ces pensées psychanalytiques?
Oui, il y en a beaucoup. J'en nommerai une autre, pour l'exemple, qui est peut-être moins connue, parce que le dit est très connu, mais c'est la question du narcissisme, de la naissance du narcissisme. Alors, le narcissisme, ça peut être entendu dans un sens... positif dans un sens péjoratif. Moi, je l'entends dans le sens positif, c'est-à-dire la construction de l'identité première, du moi premier. Et vraiment, là-dessus, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, très importantes au niveau de la diffusion entre la mère et l'enfant et des premières constitutions du moi, vraiment, avec la nécessité d'une constitution d'un narcissisme suffisamment sain. C'est-à-dire que l'enfant se sente suffisamment nourri, reçu, positivé, en quelque sorte, pour pouvoir s'asseoir sur une base intérieure qui est suffisamment solide. Et si au niveau de cette diffusion, il y a eu des ratés, hein, les ratés de la constitution du narcissisme, à ce moment-là, il y a des gros problèmes parce que ce plancher peut avoir des trous.
Oui. Donc là, vous nous faites comprendre que nous avons beaucoup à apprendre de la psychanalyse et que peut-être il faudra nous y pencher encore pour aider les enfants que nous avons près de nous à se construire. Hein. Voilà, merci Marie Romanens. Je rappelle le nom de votre livre, Le Divan et le Prix Dieu, chez Desclée de Brouwer. La musique que nous avons entendue était extraite du film Himalaya. Merci à Philippe Faure qui était à la technique.